Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le Programme. Les rencontres d'Edmond Morel.
On ne peut pas contourner la Chandeleur 75. Est-ce que vous voulez bien qu'on parle de cette année-là? Celle où la Terre a mis son drapeau noir, comme vous dites. Celle où le vent a balayé la vie de votre toute belle loulou. C'est un voyage dans l'extrême. C'est un voyage dans quelque chose qui est indicible. Mais vous avez réussi à le dire presque quelques heures, quelques jours après le drame qui était l'assassinat de Loulou, votre épouse.
Oui. Ce qui s'est passé, c'est que Loulou a été assassiné ici même, dans cette pièce. Et que moi, j'ai depuis toujours l'habitude d'écrire quand je suis en désarroi. Et alors, je crois que c'est elle qui a dû m'inspirer ce texte-là. Ami bien-aimé, ma Loulou est partie pour le pays de l'envers du décor. C'est la société qui est malade. Il nous faut la remettre d'aplomb et d'équerre par l'amour et l'amitié. Et la persuasion. Je ne sais plus après comment ça va. Ce texte-là, je ne voulais pas le sortir. Je ne voulais pas en parler. Le lendemain, il y a un ami qui s'occupait de la presse au théâtre du Parc qui m'a dit qu'il venait me voir et qui m'a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et j'avais lu le matin qu'un journaliste avait dit que Louise et Julos n'étaient pas assez racistes. Et je trouvais ça odieux. Et j'ai dit à mon copain qui s'occupait de la presse, là, je lui ai dit, mais fais publier ça, parce que je ne veux pas que ce soit une guerre, comme il y en a des guerres maintenant. Je voulais que ça reste, que ce ne soit pas une occasion et un prétexte pour se battre.
Est-ce que là, l'écriture vous a sauvé du désespoir autant que vos deux petits bambins qui étaient là ?
Ben évidemment, l'écriture sauve toujours du désespoir. L'écriture, c'est ce qui nous donne des raisons de vivre. Parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout de son champ. Hein. Je pensais... On a que deux choix après la mort de quelqu'un de proche, on se fait disparaître soi aussi, mais c'est pas recommandé. Mais ou bien on a ce choix-là, ou bien continuer. Et là, j'étais acculé à quelque chose. J'étais acculé soit à la mort, soit à la vie. J'ai choisi la vie.
Par ce texte que vous avez écrit dans l'urgence et publié, très vite après, maintenant, vous venez de nous dire pour quelle raison. Vous avez aussi donné une leçon d'humanité, une leçon d'humanisme qui était d'autant plus extraordinaire qu'elle venait dans ces circonstances-là. C'est ça aussi une sorte de legs qu'a laissé Loulou ?
Oh, sans doute, je crois qu'elle m'a inspiré ce texte. Parce qu'elle n'était pas du tout violente. Ni... Je crois que les morts restent un certain temps hein, dans les maisons et... Ils sont peut-être encore, mais ils ne s'en vont pas comme ça. En apparence, ils ont disparu, mais ils sont très forts. Ils deviennent encore plus forts que quand ils étaient vivants.
Vous avez écrit ce texte dont on vient de parler, et puis alors une chanson aussi. Je vais lire la dernière strophe, parce qu'elle est aussi sur le voyage, mais qui est un voyage spirituel, celui-là. Il est des amis du Québec qui te parlent parfois le soir. En même temps, t'es à Carpentras, à Métamis et à Java. La mort fait voyager son monde. Tu vas plus vite que le son. T'es partout sur la terre ronde. T'es devenu une chanson. Oui. C'est magnifique.
Mais je l'ai pas calculé. En fait, tous ces textes, je les ai jamais calculés. Il y a des gens qui m'ont dit « c'est pour faire ta publicité ». Il y a eu des journalistes qui m'ont sorti ça.
Bon. C'était des journalistes médiocres. Ce ne sont pas des journalistes dignes de la corporation. Une chanson, c'est aussi... On va passer de l'autre côté, cette fois-ci, de la Chandeleur. Une chanson est aussi un voyage en tant que tel. Vous avez écrit « Moi, mes chansons, elles voyagent ». Ce sont des enfants en voyage qui de moi se ressouviendraient.
Oui. Moi, mes chansons, elles voyagent et s'en vont bien plus loin que moi. Ce sont des enfants en voyage qui de moi se ressouviendraient. Oui, je crois que les chansons, c'est un peu comme des cailloux qu'on a semés derrière nous, comme le petit pousset. Je suis petit, et on pourrait m'appeler le petit pousset.
Et on retrouve son chemin aussi à travers les chansons.
On retrouve son chemin à travers les chansons, c'est ça. C'est des éclairages. C'est comme s'il y avait de la lumière sur le chemin. Les mots, moi, je les ai toujours pris pour des éclairages. C'est pour ça que je trouve que souvent, les radios sont médiocres parce qu'elles n'emploient pas la poésie. La poésie fait beaucoup plus avancer les gens que les réclames pour une casserole. Et on l'a délaissée, on nous a considérés comme des fous, quoi.
Vous créez là le lien avec la question que j'allais vous poser. À la suite de ça, le voyage, ce sont aussi les poètes. Et dans l'album qui a suivi Poésie du monde, il y a des poètes, mais qui sont des poètes de tous les horizons. Il y a Victor Hugo, il y a René Guicadou, il y a Gustave Nadeau. Alors il y a Madeleine Lay, que je ne connaissais pas. Et je découvre, en investiguant un peu, qu'elle a écrit Petite Voix, des poèmes pour enfants. Vous l'avez rencontré, enfin, comment vous avez croisé le chemin de sa poésie?
Madeleine Lay, ben, elle est morte depuis longtemps, je n'ai jamais rencontré. Elle a fini dans un institut psychiatrique, que je sache.
Au début de la Deuxième Guerre mondiale.
Au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, j'en ai entendu parler par un manuel d'enfant. Il y avait le fameux texte qui est inspiré de Saint-Augustin. C'est l'enfant qui veut vider la mer.
Et comment est-ce que, quand vous lisez un poème ou quand vous découvrez une phrase poétique écrite par quelqu'un d'autre, oui. Comment se passe le processus qui fait que vous dites « Cette chanson-là, je me l'approprie ».
Je me l'approprie, et je laisse toujours le titre. Je dis toujours que c'est de Madeleine
Lay. Oui, bien sûr, non, je veux dire, je me l'approprie. Je veux dire qu'elle vous la transforme.
Parce que ces poètes-là ont dit mieux que je ne pourrais le dire ce que je voulais dire. Alors, je trouve le dommage de les laisser.
Il y a Baudelaire aussi, il y a Nazım Hikmet.
Nazım Hikmet, c'est un grand poète turc qui était ennuyé souvent par son gouvernement. C'est un poète de gauche, magnifique. Il a écrit une chanson sur qui est toujours actuelle, « Que les nuages ne tuent pas les hommes » pour parler des bombes atomiques. C'est un texte magnifique.
Raoul Duguay, Charles Péguy, là ce sont des classiques, mais que vous réinventez, en les chantant, en les interprétant, vous les réinventez parce que vous les redonnez à découvrir.
Je crois que le poète en général, le vrai poète, il est toujours en avance sur son temps, c'est un voyant. C'est quelqu'un qui a une lampe à la main et qui avance dans les ténèbres.
Un autre poète, c'est Émile Néligan, c'est un poète canadien.
C'est un poète québécois. C'est un poète québécois très connu au Québec.
Alors, il y a aussi Paul Vicenzini, ses compositions personnelles qui sont un mélange où on vous retrouve un peu. Il y a de la cocasserie, il y a de l'absurde. Ouais. Apparaissent comme une sorte de gigantesque pied de nez au mal-être et au tragique existentiel, dit Wikipédia, que je cite. Ouais. Et il a une expression très belle, une phrase très belle, qui est la vraie... un vrai chemin est toujours tracé dans rien. Regardez les oiseaux.
Ah oui, mais c'est formidable.
Pas mal, hein?
Formidable. Mais Paul Vincenzini, lui, il vivait dans le sud de la France. Aussi, je l'ai rencontré dans le sud de la France. Il est mort, ça fait quand même au moins une quinzaine d'années. Et sa femme continue un peu, et puis d'autres poètes, à parler de lui. Mais c'est un grand, grand, grand poète. Inconnu, hélas.
Oui, inconnu, mais lui aussi a passé une partie de sa vie à essayer de défendre des oui. poètes qui l'avaient précédé et qui n'étaient pas connus.
Oui. Il était vraiment très actif.
Alors, on arrive petit à petit, sans pouvoir épuiser tout le livre ni tout le répertoire. J'aimerais qu'on parle un peu du Jazzer Boréal, qui est le dernier album, qui est en même temps dans le livre les derniers poèmes que vous avez écrits. J'aimerais, à partir du Jazzer Boréal, que vous nous disiez un peu, que vous nous fassiez un peu entrer dans le laboratoire du poète. Vous écrivez comment? Comment est venu ce Jazzer Boréal, qui est un oiseau migrateur? Comment vient le déclic poétique à partir de ce mot-là?
À partir du nom, du titre de...
Comme vous voulez.
Le Jazzer Boréal, d'abord, ce qui m'intéressait, c'est le Boréal. C'est cette notion du Nord.
Le Spitzberg, on a déjà parlé.
Oui, le Spitzberg. Nous sommes du Nord. Oui, hein, oui. On est quand même... Parfois, il y a des froids terribles qui sont proches de ce qui se passe au Québec. Mais parfois, il y a des chaleurs terribles aussi. Mais le Jazzer Boréal, j'aimais bien le mot jazzer, parce qu'un jazzer, c'est le nom d'un oiseau, mais c'est aussi quelqu'un qui jase, qui parle.
Tu dis plutôt du mal de...
Non,
jaser, c'est pas...
jazzer, on peut mal jaser, comme ils disent au Québec, mais on peut très bien jaser, là. Oui, c'est sûr, ça... Mais c'est le côté jazzé, quoi. Employer sa langue, ça, j'aime beaucoup ce mot-là.
Et alors, vous écrivez comment? Vous écrivez avec un papier et du crayon ou bien comme sur votre blog au clavier de l'ordinateur?
Mais d'abord, c'est papier et crayon. Et puis, je retranscris. Et quand j'écris au papier et au crayon, j'écris une certaine forme de texte. Et quand je le fais au clavier, je rajoute encore des choses. C'est ce qui est intéressant. Parce que moi, je fais beaucoup de bavures dans mes textes, beaucoup de ratures. Et alors, ça devient... Si je les écris, je ne m'y retrouve pas. Mais l'ordinateur met de l'ordre dans tout ça.
Oui, d'ailleurs, en français, on dit ordinateur, on ne dit pas computer, qui veut dire calculer, comme les Anglais, d'ailleurs.
Ah, ouais,
donc, en français, non, les ordinateurs...
Moi, je préfère ordinateur que computer.
Alors, quand vous écrivez, ça, j'ai déjà remarqué, parce que vous utilisez votre écriture manuscrite presque comme de la peinture ou de la calligraphie,
oui,
parce que vous avez une très, très belle écriture.
Moi, j'aime beaucoup la calligraphie des mots. Et je trouve que... c'est pour ça que dans le livre, il y a beaucoup des poèmes écrits, parce qu'ils parlent plus de moi que les textes. S'il y avait un graphologue, il vous dirait, oui, ce jour-là, il avait mal dormi, ou bien ceci ou ça.
Vous avez soumis déjà votre écriture?
Oh, il y a des gens qui l'ont prise, mais bon, je ne me souviens pas de quelles étaient leurs conclusions. Ou bien ils ont peut-être dit, il est fou, ou ils ne l'ont pas dit.
Alors,
ça dévoile aussi l'écriture, absolument. Ça dévoile terriblement.
On arrive au bout de cet entretien, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire beaucoup d'autres. Je vais essayer de fermer la boucle du voyage, comme si on arrivait à destination ou à la première étape. Vous dites quelque part, en citant votre père, « Le seul voyage à faire, c'est celui dans toi-même ».
Mais c'est sûr qu'on est en train de forer sa vie, d'essayer d'aller au cœur... Au cœur même de soi-même. On essaye de se connaître. Hein, c'est Socrate qui disait au Platon, connais-toi toi-même. Et c'est sûr que c'est toujours d'actualité. On essaye de se connaître. Et le début du bouquin, c'est quand on me dit comment vas-tu. Attends, c'est ici, je crois.
Quand on me demande ce que je deviens, je réponds, je deviens ce que je suis.
Voilà. J'aimerais devenir ce que je suis. Et que ça puisse continuer encore longtemps. Mais la vie n'a de sens que justement si on est en train de percer son secret, d'arriver à sortir tous les gisements qu'on a dans soi-même. Comme nous, on était dans un pays de carrière, c'est évident que je creuse pour retrouver les carrières actuellement, puisqu'elles sont plus exploitées. Ça devient des yeux tournés vers l'univers.
Ça devient des mares, étangs qui
des
sont...
Étangs, oui. Et c'est comme des yeux qui regardent l'univers dans les moindres détails.
Avec une couleur très, très opaline, verte d'ailleurs.
Oui, c'est très très beau. Mais malheureusement, on ne peut plus les visiter avec Ossina aussi.
Vous remarquez que nous sommes partis d'Écosine, que nous revenons à Écosine à la fin de cet entretien. Julos Bocarn, je vous remercie vraiment du fond du cœur de cet entretien, de ce livre « Mon petit royaume » qui réunit les chansons que vous avez écrites à partir de 1964 jusqu'à l'an 9. Oui. L'an 9 étant non pas un chiffre, mais étant la nouveauté, étant ce qui vient, étant la renaissance, étant tout ce que vous nous donnez avec ces mots qui sont comme des petits cailloux, de petits poussés, qui nous aident, nous, à retrouver notre chemin. Et c'est un chemin que vous éclairez d'une très, très belle lumière. Merci, Julos Bocarn.
Merci beaucoup.
Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le Programme. Les rencontres d'Edmond Morel.